ce 22 mars, c'est la fête de deux saints qui ont des noms très étranges. Deo Gratias, imaginez, un évêque et confesseur à Carthage, mort en 457. Et un autre évêque qui avait vraiment un nom, je le dis pas, Épaphrodite, oui, évêque de Philippe au 1er siècle, au tout début de l'Église. C'est aussi la fête de Sainte Léa. J'avais une tante qui s'appelait Léa, une dame romaine, disciple de Saint Jérôme, morte en 383. Je laisse donc tomber ces saints pour parler de quelqu'un de tout à fait contemporain, l'un des plus grands prophètes de ce siècle, un homme pour lequel j'ai une énorme admiration, qui à mon avis était un saint, et même que des Dominicains ont déjà publié un livre dans lequel il est question de Saint Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, qui n'est évidemment pas canonisé, il est mort en 1950, très jeune, était père de trois enfants. C'est l'auteur d'une réflexion profonde sur ce qu'il appelle le personnalisme. C'est l'auteur de nombreux ouvrages remarquables, dont celui que je préfère, L'affrontement chrétien, que j'ai lu et relu. Oh, c'était un livre de chevet pour moi, j'avais acheté ça le 19 août 1950. C'est vraiment quelqu'un qui m'est très cher. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On trouve pour étudier Emmanuel Mounier un ouvrage bien fait dans la collection des classiques du XXe siècle, publié aux éditions universitaires il y a déjà bien longtemps, en 1962, simplement intitulé Mounier, par Lucien Guissard. Cet ouvrage a marqué et ça a inspiré Régis Boyer dans un bel ouvrage sur ce grand catholique, cet homme absolument fabuleux, Emmanuel Mounier. Le titre qu'il a donné, Régis Boyer, à son ouvrage, c'est « Actualité d'Emmanuel Mounier, la notion de personne ». Vous direz, c'est de la philosophie, je change de poste, je m'en vais. Non, ne faites pas ça. C'est vraiment un chrétien profond, c'est pas un chrétien rêveur, c'est le créateur d'ailleurs, avec Albert Béguin, d'autres de la grande revue Esprit. Emmanuel Mounier avait d'ailleurs publié aussi un ouvrage très bien fait, une introduction aux existentialismes dans la collection Idées chez la Nouvelle Revue Française. Et un livre que j'avais beaucoup aimé, un livre qui a fait sensation, qui a scandalisé bien du monde et pourtant, aucune raison me semble de s'en scandaliser, si ce n'est peut-être quelques pages ici et là, c'est « Feu la chrétienté ». Oh non, pas qu'il disait que le christianisme était mort, il était croyant jusqu'au bout des ongles, mais c'est qu'un certain christianisme profond, nourri du Christ, nourri de l'Évangile, semblait à ses yeux un peu comme si c'était mort. Emmanuel Mounier est né en 1905, est mort en 1950, donc 45 ans, quand il est mort, il était né à Grenoble. Je vous fais un résumé rapide de sa vie. De 1924 à 1927, donc d'environ 20 ans à 25 ans, des études de philosophie avec Jacques Chevalier à l'Université de Grenoble. Jacques Chevalier, qui était catholique, l'a beaucoup, beaucoup impressionné, beaucoup marqué. En 1927-28, il prend son agrégation de philosophie à la Sorbonne. Et quelques années plus tard, il est professeur de philosophie à Neuilly, en banlieue de Paris. Et puis, il va jusqu'à Saint-Omer enseigner aussi. Et il écrit, en collaboration avec Marcel Péguy et Georges Isard chez Plon, « La pensée de Charles Péguy ». Car Péguy avait quelque chose de prophétique, et Mounier encore plus. Pensez aux prophètes de l'Ancien Testament dans la Bible. Ces hommes extraordinaires qui ont su dire au nom de Dieu, des vérités profondes, vastes, qui souvent leur ont mérité la mort. Eh bien, Emmanuel Mounier n'a pas hésité à dire des choses qui parfois lui ont été reprochées par Jacques Maritain, par Paul Claudel et d'autres catholiques de son époque. Il a donc fondé la revue Esprit, le premier numéro, en octobre 1932. Une revue qui a eu un impact énorme sur l'Église catholique, hein? Énorme, et aussi sur la société. Il a enseigné au lycée français de Bruxelles de 1933 à 1939. Et pendant ce temps-là, il a publié « Révolution personnaliste et communautaire ». C'est un ouvrage assez difficile, mais très beau. En 36, « De la propriété capitaliste à la propriété humaine ». C'est un de ces dadas, si on peut dire. Hein. Cette attaque profonde contre le capitalisme sauvage, afin que les hommes qui ont des capitaux, qui possèdent des choses, soient des hommes, hein. Il avait publié ça aux éditions Montaigne et Desclés de Brouwer. Il a fait aussi un manifeste au service du personnalisme. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il entend par ça. Hein. Ça, en somme, grosso modo, c'est que nous ne sommes pas que des individus. Nous ne sommes pas non plus que des pions à être manipulés par des grands mouvements de réforme comme le communisme. Non, nous sommes des personnes humaines. Des personnes humaines habitées par le Christ. Des vivants, quoi. Des êtres debout. Des êtres éclairés par la lumière divine, particulièrement par l'Église et son enseignement. Mais il attaque souvent l'Église aussi. Il lui fait des reproches, comme on reproche à sa mère parfois des choses qu'on voudrait changer. Parce qu'on l'aime, hein? Parce qu'il aimait profondément l'Église, très attaché à l'Église. Il a publié à la veille de la guerre « Pacifiste et belliciste » aux éditions du Cerf, chez les Dominicains. Là. Puis il a été mobilisé en septembre 1939. Dès le début de la guerre, il était mobilisé. Et deux ans plus tard, la revue Esprit est interdite par le gouvernement de Vichy sous les pressions des nazis. Parce qu'ils ont pris des positions, évidemment, de liberté et d'affirmation de l'Évangile, hein, qui, pour lui... Et pour un vrai chrétien, l'Évangile, c'est révolutionnaire. C'est contraire au despotisme comme celui des nazis. Et c'est en 1944 qu'il publie ce magnifique livre, L'affrontement chrétien, dont je viens de vous parler, publié à Neuchâtel aux éditions de la Baconnière. Et après la guerre, bien, il y a une nouvelle série d'Esprit en 1945, la revue reprend. Et il publie des morceaux choisis de Montalembert, car... Il faudrait qu'un jour je vous parle de Montalembert aussi, qui a un esprit du 19e siècle chrétien extrêmement important. 1946, il publie encore « Liberté sous condition au seuil ». Voyez-vous, c'est toujours dans des grandes maisons d'édition. Je vous assure que quand on voit des catholiques de cette trempe, c'est merveilleux. Est-ce qu'on en aura encore de ces grands catholiques dans notre Église, de francophone, tant de France, de Belgique, du Québec? Où seront-ils? Et son introduction aux existentialismes, où il dégage la pensée de Gabriel Marcel, un grand chrétien existentialiste, Gabriel Marcel, il publie ça, comme je vous ai dit, là, bon, en 46. Puis il y a aussi un immense bouquin que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai relié moi-même et que je n'ai jamais réussi à lire, tellement c'est difficile, c'est le Traité du caractère, publié au Seuil. C'est un ouvrage extrêmement passionnant, dit-on, sur les différents problèmes psychologiques que peut subir un chrétien et qu'il se doit de guérir pour parvenir à la sainteté autant que possible. Et 1947, bien, c'est « Qu'est-ce que le personnalisme ?» Un ouvrage retentissant sur sa doctrine essentielle. Et en 48, « L'éveil de l'Afrique noire », puis « La petite peur du 20e siècle » qui a fait beaucoup de bruit aussi. Puis l'année avant sa mort, il publie Le personnalisme encore aux presses universitaires de France. Et le 22 mars 1950, Emmanuel Mounier meurt d'un arrêt du cœur. Je vous signale qu'il avait trois enfants, mais l'un de ses enfants était presque réduit à l'état végétatif. C'était une fillette très malade, très très malade, et qu'il a considéré comme une grâce de Dieu. Pas facile, pas facile. Il avait la trempe d'un saint. D'ailleurs, dans une lettre où il confie à sa femme, au fond, par un côté, le christianisme, c'est cela, que l'on peut faire de l'or avec toute matière, et que transfigurer en charité, en amour, les activités les plus matérielles d'apparence, peuvent être plus fécondes que les plus brillantes volontés. Mais oui, il était éprouvé dans sa chair. dans son âme, par suite de la maladie épouvantable, incurable de sa fille, qui s'appelait Françoise. Et il dit tout simplement, « Quel sens aurait tout cela ?» Il écrit à sa femme, « Quel sens aurait tout cela si notre gosse n'était qu'un morceau de chair abîmé, on ne sait d'où, un peu de vie accidentée, et non pas cette blanche petite hostie qui nous dépasse tous, une infinité de mystères et d'amour qui nous éblouirait si nous le voyons face à face, si chaque coup dur n'était une élévation nouvelle qui, chaque fois, quand notre cœur commence à être habitué, adapté au coup précédent, est une nouvelle question d'amour. » Alors il reprend et dit, « Je sens, comme toi, une grande lassitude. » Devant un enfant comme ça, vous savez, j'en sais un tout petit peu quelque chose, ayant adopté un enfant comme ça, c'est très très dur. « Je sens, comme toi, une grande lassitude et un grand calme mêlé. Je sens que le réel, le positif, c'est le calme. Cet amour de notre petite fille se transforme doucement en offrande, en une tendresse qui la déborde, qui part d'elle, nous transforme avec elle. Il n'y a plus qu'à être le plus fort que nous pouvons avec la prière, avec l'amour, avec l'abandon. » Il souligne l'abandon. Avec la volonté de maintenir la joie profonde du cœur. Alors on peut constater que c'est toujours le même Emmanuel Mounier, partout dans toutes les circonstances de sa vie, qui a aux entrailles une humanité débordante qui vient de son immense foi chrétienne. On peut dire que dans les époques dangereuses, comme celle que l'Église vit au XXe siècle, se lèvent des hommes et des femmes audacieux. Ils prennent le risque de scruter la nuit dans laquelle nous sommes tombés. Et là, ils ne s'éclairent pas simplement avec une grosse lanterne épaisse, une lanterne d'idées reçues, là. C'est pas les idées reçues qui les éclairent. Non, non, non. Emmanuel Mounier a été un de ces hommes courageux qui a pris la lumière du Christ. Et quand il est mort en 1950, donc à l'âge de 45 ans, personne n'aurait pu lui refuser la vertu de présence. C'est Lucien Guisseur qui dit ça. Sa vie avait été courte, mais il l'avait consumée à prendre sa part des drames politiques, des controverses sociales et culturelles, des inquiétudes religieuses qui donnent au XXe siècle son allure de champ de bataille. Il est entré dans tous les domaines. C'est un chrétien laïque engagé dans le monde, mais profondément ancré au cœur de l'Église. Son histoire se confond d'ailleurs avec l'histoire des hommes. Rien ne semblait de prédestiner Emmanuel Mounier à une existence comme celle-là. Il est né le 1er avril, je vous l'ai dit, 1905, à Grenoble, dans une famille de conditions vraiment modestes. Il va rappeler souvent d'ailleurs à ses amis que ses grands-pères étaient des terriens, mais qu'il avait trouvé dans son héritage des traits psychologiques, dont il gardait la fierté, il était fier de ça. D'ailleurs, nous-mêmes, ici au Québec, moi, mes arrière-grands-parents étaient tous des cultivateurs. Et au colonel, un colonel auquel il écrivait, quelques semaines avant sa mort, il dit, « Je suis intellectuel, ceci appelle un certain nombre d'atrophies et de tics, mais je me garderai de m'en croire exempt. Mais souvent, je me retourne avec reconnaissance vers mes quatre grands-parents paysans, des vrais, tous les quatre, avec de la terre à leurs souliers, le lever à 3 heures et la tranche de saucisson, ou on dirait ici au Québec de lard salé, hein, dans les doigts. » Alors, c'est un descendant de terriens, d'habitants, comme on dit ici, hein. Il a besoin de faire retour à ses origines. Il consent pas sans se critiquer lui-même au dépaysement qui est exigé par toute sa carrière d'intellectuel, car c'est un immense intellectuel. Immense, vraiment. Mais une hygiène lui est indispensable, et c'est en même temps l'aveu des travers qu'il n'a pas entièrement évité. Hein. Il dit souvent « Je suis un montagnard ». Mais pourtant, le jeune Mounier, à travers une enfance là, qui lui a été très agréable, très douce, s'est dirigé vers un monde qui déconcerte évidemment les montagnards et les paysans. Hein. D'abord, il faut bien spécifier qu'il était éprouvé physiquement. C'était un bel homme, mais éprouvé physiquement par une surdité partielle. Il était un peu sourd. Sa vue aussi était très affaiblie. Alors, il avait entrepris ses études avec un certain retard. Et ses parents, ses maîtres, se trouvaient bien d'accord pour reconnaître qu'il avait, sur tous ses camarades, l'avantage d'une intelligence et d'une maturité vraiment précoces. Il brillait. Et il s'était appliqué à ses études avec un courage presque féroce. Et son intelligence, qui dépassait l'intelligence de tous les autres enfants, s'avançait sur des questions puis des réponses avec une lenteur, on le remarquait, qui venait de ses exigences. Il n'acceptait pas de dire qu'il avait compris s'il n'était pas allé au cœur des choses. Et au sortir du lycée, tout jeune, mais il a fallu qu'il choisisse une direction dans ses études supérieures. Il lui est arrivé quelque chose de très étrange. Ses parents rêvaient d'un fils médecin. Mais Emmanuel Mounier, qui était affectueux puis un peu timide aussi, toujours un peu à part des autres à cause de sa grande intelligence, et ça rend souvent les grandes intelligences, comme ça quand ils sont jeunes, ça les rend timides et un peu réservés. Et alors, il s'est inscrit à la faculté des sciences, non pas pour devenir médecin, mais pour étudier vraiment les sciences. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était les lettres. Ça me rappelle quand je suis entré à la faculté de philosophie, je me dirigeais dans le corridor, dans le bâtiment de l'Université de Montréal. Il y avait le père Louis Lachance, un dominicain, qui m'apostrophe et qui me dit « Et alors, Raymond, où allez-vous comme ça ?» Parce que je me dirigeais vers la faculté des lettres. Mais il dit, allez étudier les lettres, vous allez perdre votre temps. Faut étudier la philosophie, avoir des bases, faut perfectionner vos études. Et puis il m'a si bien endoctriné que j'ai bifurqué, je suis allé en philosophie, j'ai pris une licence en philo. Ça n'a pas été facile quand on a le goût des lettres, mais je ne le regrette plus. Et le père Louis Lachance avait, je pense, bien raison. Alors le désir de son père qu'il devienne médecin, ça n'a pas suffi à lui donner une vocation. C'est une période de souffrance. Il voulait pas déplaire à son père. Mais son grand ami belge, Jacques Lefranc, Mounier le dira d'ailleurs dans une lettre du mois d'août 1933 à cet ami belge, « Je tombe, c'est curieux, je tombe dans la physique, chimie, histoire naturelle. Je suis désespéré, jusqu'au goût de suicide. » Pour oublier, je fonce comme un fou. Alors il en perdait, dit-il aussi, l'appétit. Les trois années, là, de 1921 à 1924, pour lui, c'était perdu, ce dans le monde des sciences. Parce qu'il n'a pas pu donner libre cours à son amour de la lecture. Alors au lieu d'approfondir, si on veut, le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, ben il fallait qu'il se plonge dans des mathématiques. Et juste le temps d'entrevoir un peu ce que Bergson pouvait dire. Pour lui, Bergson, c'était bien plus passionnant. Hein? Je vous ai fait une émission sur Bergson, si je me souviens bien, au début de janvier. Hein? Henri Bergson, ce grand philosophe. En 1924, il suit une retraite fermée. Oh, j'entends des jeunes qui doivent se dire, qu'est-ce que c'est ça, une retraite fermée? Mais oui, on connaît plus ça aujourd'hui. Dommage. On peut en faire encore aujourd'hui. C'est se retirer, une retraite, se retirer. C'est pas une retraite comme qu'on prend à 65 ans, loin de là. C'est une retraite qui dure une semaine. Ça peut durer 3 jours. Ça peut durer 2 semaines, ou même un peu plus. Alors, on se retire comme ça dans une maison avec d'autres personnes. Et on fait silence. Et chaque jour, matin et après-midi, eh bien, il y a des conférences, des causeries ou des discussions. non seulement sur le sens de la vie, mais les solutions qu'apporte l'Évangile et le Christ. Et ces retraites peuvent être extrêmement profitables. Il est bon d'ailleurs d'en faire une semaine par semaine, ou à tout le moins 3-4 jours. Hein. Très important, bien des gens en font plusieurs par année. On peut en faire ici à Montréal, on peut en faire aussi chez les Jésuites à Saint-Jérôme, à bien d'autres endroits. Et alors donc, cette retraite fermée, il considère dans une lettre, il dit « La retraite est lumineuse, j'y lis en lettres de feu la nécessité de bifurquer, donc de quitter les sciences. » Et cette fois, il est résolu à s'orienter vers la philosophie. Et la philosophie, c'est la réflexion sur le sens de notre existence par la raison, pas par la révélation. Je dis ça pour ceux qui pourraient ne pas savoir ce que c'est que la philosophie, là. Philosophie. Sophie, ça veut dire sagesse. Hein. Philo, c'est aimer. Aimer la sagesse. Aimer à réfléchir. Alors, il veut s'orienter vers ça, puis il n'a aucune peine à convaincre sa famille. Et pendant 3 ans, de 24 à 27, là, 1924 à 1927, il va suivre les cours de Jacques Chevalier, je vous l'ai dit, à l'Université de Grenoble. Puis entre le philosophe et ce brillant élève qu'est Emmanuel Mounier, bien, naît une amitié qui va être pour Mounier une richesse. Une richesse extraordinaire dans sa jeunesse studieuse. Il a un maître. Hein. Il admire son maître. Puis le maître sait qu'il influence en profondeur cet extraordinaire esprit qui est réceptif et curieux. Mais Mounier n'est pas né pour devenir un disciple. Mounier saura plus tard, une fois dominé sa séduction là, qui l'attachait à Jacques Chevalier, au temps des premiers plaisirs intellectuels, il va prendre ses distances à un moment donné. Mais il va dire un jour à son ami belge, là, Lefranc, il lui écrit « 3 années fécondes, mais trop lisses, et qui n'étendaient guère la géographie de mon esprit. » Parce qu'il y a un esprit tellement vaste qu'il se sent un peu enfermé. Ces paroles, la date de l'époque où, beaucoup plus grave, là, vont surgir les divergences de vues entre ces deux hommes. Et l'année 1926-27 va se passer à lire Descartes. Il le lit puis il le médite. Étrange. Mais le 23 juin 1927, Emmanuel Mounier présente un mémoire pour son diplôme, Le conflit de l'anthropocentrisme et du théocentrisme dans la théologie de la philosophie de Descartes. C'est-à-dire tout le conflit qu'il peut y avoir de concevoir notre existence comme centrée sur nous-mêmes, ou bien de la concevoir comme centrée sur Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est là qu'un des aspects de ses activités à Grenoble. C'est un catholique convaincu que Mounier. On en a tellement peu, des fois, de catholiques convaincus. On le sait qu'ils sont là. Moi, je reçois des appels des gens merveilleux, qui sont archi-convaincus, qu'on ne connaît pas. J'espère qu'ils rayonnent dans leur milieu. On en a tellement besoin ici, à Montréal, au Québec. Alors, c'est un catholique convaincu qu'Emmanuel Mounier. Il participe aux travaux, à la méditation de cet autre grand chrétien que fut Jacques Chevalier. Et Mounier envisageait sa formation philosophique en vue de l'apostolat. Il veut devenir un apôtre. C'est pas utiliser la philosophie pour brasser des idées, pour avoir une belle bibliothèque, pour s'asseoir dans son fauteuil et réfléchir. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est le point de vue de son père, qui est un homme très saint. Et parmi ses condisciples, il donne l'impression à tous d'être un entraîneur. Alors, il a fondé un groupe d'études religieuses pour les futurs professeurs. Il fait partie de l'Action catholique de la jeunesse féminine et de la conférence de Saint-Vincent de Paul, de la jeunesse française plutôt, et de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Il s'occupe des pauvres. Et sa vie religieuse est intense. Il ne la laisse pas s'épanouir seulement dans les cercles d'études. Un professeur de lettres, un monsieur Maggiani, qui l'a connu à Grenoble, apporte un très beau témoignage. Je vous lis ça avant de passer à la pause. Il dit, c'est lui qui, dans ces petites communautés religieuses authentiques, alors naissantes, me mena dans son cercle auprès du curé de Saint-Laurent, dans le quartier le plus populaire et le plus pauvre de Grenoble. Ce curé était une vocation tardive. Lui aussi, ce curé, était toute ardeur et toute charité. Je suis certain qu'il a eu sur la formation spirituelle, je dirais mystique, d'Emmanuel Mounier, une influence décisive. Voyez-vous, les prêtres qui ont une influence décisive, les saints prêtres. Et ce prêtre ajoute encore que Mounier ait reçu beaucoup l'année suivante quand il est parti pour Paris. Et ce curé s'appelait l'abbé Guéry. Il est devenu archevêque de Cambrai. Il a gardé de Mounier le souvenir très vivant d'un apôtre qui exerçait dès ce moment-là une réelle influence sur ses camarades. C'était lui qui animait le groupe. On le sentait avide de s'instruire. Il prenait des notes sans arrêt pendant l'instruction pour les communiquer à ses camarades. Alors le rayonnement d'Emmanuel Mounier dépassait d'ailleurs le milieu des élèves de philosophie. Il avait amené au cercle, pour les études d'apologétique ou de défense de la foi chrétienne et d'explication de la foi catholique, des étudiants de lettres et d'histoire. Et c'est dès cette époque que sa personnalité s'édifie, et l'on verra dans la deuxième moitié quelle personnalité fantastique avait Emmanuel Mounier. Dans l'affrontement chrétien, cet ouvrage que j'aime énormément, il écrit « Le chevalier de l'absurde se présente comme le héros de l'âge moderne. » On voit tout son esprit. Il se jette sans avenir corps et âme face au rien. Et il dit un peu plus loin, quand il se retourne vers l'univers chrétien, cet éclaireur du néant est saisi d'irritation, comme un combattant qui se retrouve brusquement à l'arrière. Il est seul, il est perdu, seul même dans l'action publique, même parmi les hommes. Perdu pour toutes les consolations du cœur, de la raison ou de la foi, puisque pour lui, dès maintenant, tout est irrévocable et qu'un jour tout sera fini. Le chrétien, lui, est un homme entouré, prévenu, attendu de tous côtés. Même quand la grâce le déserte et quand les hommes lui manquent, il garde dans son abandon la sourde présence des fidélités invisibles. C'est vrai que quand un chrétien se sent un peu désespéré et de lui-même et des autres et de ce qui se passe, il y a tout ce monde invisible qui est là, autour de lui et en lui, Dieu, la Trinité. Et c'est une sérénité, une joie qui s'empare de lui. Et Emmanuel Mounier ajoute, il est un homme sauvé. Si cruelles soient les obscurités de la foi et l'incertitude du salut personnel, il sait que la lumière finale lui est promise et que son assomption personnelle dans l'impossible ne dépend que d'un geste de sa bonne volonté. Vous voyez le style, c'est d'une richesse, on peut pas lire ça sur les ondes facilement, c'est une très grande richesse. Donc je vous ai dit que Emmanuel Mounier est un esprit armé pour la recherche intellectuelle. Il s'enferme pas dans les livres. Jean Guiton lui écrit en 1928, « Vous paraîtrez et on se groupera autour de vous. » Et c'est vrai. Alors un profond besoin de communion humaine va le pousser à découvrir en personne lui-même là, la misère des quartiers populaires. Alors l'expérience de Saint-Laurent, Grenoble ne sera que le début d'une vie donnée à ceux qui sont loin du catholicisme. Et les études vont se poursuivre à Paris cette fois, où Mounier débarque le 29 octobre 1927. Et le contraste entre la grande ville indifférente et la chaude intimité de la plus petite ville de Grenoble, ça va être une épreuve pour lui. Mais il doit lutter plus encore contre l'aversion, c'est pas trop fort comme mot, l'aversion que lui inspirait l'université. Il venait de perdre un ami très cher, Georges Barthélémy. C'est un de ceux qui l'avait consolé de toutes ces camaraderies superficielles que l'on a, toutes ces pertes de temps. Et il avait saisi une fois depuis la fécondité de la souffrance, dont je vous ai parlé tout à l'heure au sujet de sa fille, la fécondité de la souffrance quand elle est reçue chrétiennement. En parlant de la Sorbonne, il écrit, « Et je crois bien que c'est là ce qui manque surtout à ces âmes assurées de professeurs à la Sorbonne, le sacrifice consenti ou l'épreuve. La notion même, la notion concrète de la misère humaine, comme de sa vraie grandeur, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent l'hôpital que du sein de leur commission d'hygiène. » Et c'est vrai, que c'est pas tout d'être dans des réunions pour discuter de la pauvreté. Il faut y aller. Il faut en prendre dans ses bras des pauvres, les soulever, les transporter. En 1928, c'est l'agrégation philosophie. Emmanuel Mounier est reçu second, juste derrière Raymond Aron. Son succès ne le grise pas vraiment. Il désirait non pas d'être agrégé, mais de n'être plus agrégatif. Il voulait finir ses études, quoi. Alors, le moment était venu de préparer une thèse. Il songeait à étudier les mystiques espagnols. Il fait même un voyage en Espagne au printemps 1930 pour les étudier, mais ce projet de thèse est abandonné. Alors, il y a un autre sujet, le péché. Mais ça n'a pas eu plus de chance. Ça a été abandonné après s'être entretenu avec Jacques Maritain. Je vais vous en parler de Jacques Maritain bientôt. Et avant de se lancer dans les difficultés d'une telle entreprise, mais il a arrêté. Alors, il avait relu Peggy pendant les vacances de Noël 28-29. Ce Peggy, là, ça le hantait depuis longtemps. Il s'y met à la rédaction d'un ouvrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, en collaboration avec Georges Izard et Marcel Peggy, La pensée de Charles Peggy, qui est paru en 1931 dans la collection Le Roseau d'Or, lancée par Maritain. C'est Albert Béguin qui note « Il semblait, au cours de ses études, mûrir une vocation, sinon de professeur, du moins de philosophe chrétien. Ce n'était pas sa vraie, son unique vocation, puisqu'il a choisi de répondre à d'autres sollicitations avec une ténacité d'autant plus imprévisible qu'il lui a fallu, pour cela, faire violence à bien des côtés de sa nature, de sa nature première. » Alors, Mounier entendait un appel intérieur. C'était cet appel, celui que le chrétien ne saurait refouler au fond de son cœur. Quand il considère les hommes qui luttent dans la société, les femmes en détresse. Et dans le même temps, les sollicitations du monde se faisaient impérieuses. Pour celui qui avait appris à Grenoble comment on organise une équipe et comment on s'approche des réalités sociales. Alors, dès l'été 1930, ces notes laissent présager la fondation de la revue Esprit. Et les premiers jalons étaient posés après des entretiens qu'il avait eus avec ses amis Georges Izard et André Deléage. Et la revue a failli s'appeler Univers. Ce titre était déjà pris. Alors, il a semblé que celui d'Esprit a été suggéré par Mounier lui-même. Alors, le départ était pris, puis la vraie fondation de la revue Esprit a eu lieu en août 1932. Ça couronnait le travail accompli par les groupes que Mounier ne cessait d'animer en France, à l'étranger aussi, une quarantaine déjà, en avril de la même année. Tous ces groupes de chrétiens intelligents, là, qui approfondissent les choses et qui vont au-devant des pauvres et qui font des choses, qui s'engagent. Et le premier numéro d'Esprit porte la date, comme je vous avais dit tout à l'heure, d'octobre 1932. Et au sommaire, on voyait les signatures de Mounier, évidemment, d'Izard et de Léache, ses deux amis, là. Mais Jean Lacroix aussi, que j'avais eu la chance d'interviewer à Rencontre, Berdiaeff, Denis de Rougemont, qui est passé aussi à Rencontre à la télévision de Radio-Canada, et le docteur René Billot, notamment. Et bientôt, des nouveaux collaborateurs ont élargi l'équipe. Et il y avait là Jacques Madaule, Henri Guillemin, que j'ai interviewé plusieurs fois, Pierre-Henri Simon aussi à Rencontre. Alors, d'autres, sans renier leur sympathie, n'étiennent pas tout à fait leur collaboration, dont Étienne Borne aussi, que j'ai interviewé à Rencontre à la télévision. Il y avait tout le groupe de l'Ordre Nouveau qui comptait, entre autres, Raymond Aron, Denis de Rougemont, etc. À 28 ans, donc, Mounier est déjà un chef de file. Et l'apparition de sa revue fait du bruit. Certains envoient des félicitations. D'autres, évidemment, il y a toujours des gens qui crient. Ils crient au socialisme, et pourtant, c'est pas ça. En annonçant le numéro 6 à sa sœur au début de mars 1933, Mounier s'exclame « Ça va faire du boucan ». C'est bien l'expression d'un gars qui lutte. Et c'était le numéro sur la rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi. Que j'aime cette phrase. Rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi. Quel malheur pour l'Église souvent d'avoir été un peu trop près du désordre établi. Quelle merveille que de voir en ce 20e siècle tous ces chrétiens, ces évêques, les papes, se sont élevés contre le désordre établi.
ces évêques assassinés, ces jésuites fauchés, ces religieuses fauchées, tous ces militants d'Action catholique jetés dans des puits en Amérique du Sud, et ces dizaines, et pour pas dire ces centaines de milliers de chrétiens fauchés par les communistes, par les nazis. Quelle grande église que la nôtre, hein? Alors, le retentissement qui prolonge la joie des tâches, ça va pas tarder à s'accompagner de difficultés. On manque d'argent. Les amis de la première heure sont un peu effarouchés, scandalisés. Il y a des ruptures sur le plan des idées, évidemment. Quand on lutte, c'est comme ça. Alors, du côté de Maritain, il n'y a pas de rupture, mais il y a des avertissements, des objections, un peu. François Mauriac, lui, dans un article de l'Écho de Paris, il apostrophe les jeunes bourgeois révolutionnaires, mais ils coupent pas les ponts, ils les respectent. Au mois de mai, l'archevêché de Paris demande un rapport sur les positions de la revue, mais aucune mesure n'est prise. En mai 1936, l'autorité ecclésiastique s'alarme à nouveau. Un ami affirme à Emmanuel Mounier que la condamnation d'esprit par Rome semble se dessiner à l'horizon. Alors Emmanuel Mounier, aidé de Maritain, rédige pour sa défense un rapport qui doit être communiqué à l'archevêché de Paris. Et par l'intermédiaire de Monseigneur Courbe, qui apporte ça à l'archevêché de Paris. Et heureusement, l'Église de Paris défend Emmanuel Mounier, prend sa défense, et la condamnation romaine n'est pas venue. Monseigneur Beaussard, je cite ces noms parce que Monseigneur Courbe, Monseigneur Beaussard, ce sont des noms à retenir, de prélats au grand cœur. Alors, Monseigneur Beaussard, de son côté, s'était même déclaré prêt à faire le voyage de Rome pour intercéder en faveur de la revue Esprit. En septembre 1939, lui qui n'a pas connu la caserne militaire, il est mobilisé, là, comme je vous l'avais signalé au début, dans la brève biographie, il devient chasseur alpin. Mais la vie militaire ne lui convient absolument pas. Il ne sera pas militaire bien longtemps. Il est fait prisonnier, d'ailleurs, quelques semaines par les Allemands en 1940. Heureusement, sans quitter le territoire français. On le démobilise en juillet à Orange, dans le sud de la France. Orange, c'est une petite ville. Là, il y a des arènes romaines. Là, c'est une ville intéressante à visiter. Alors, il reprend la rédaction régulière de son journal, qui était interrompu en 1936, car il écrit son journal. Et en faisant des prodiges, la revue Esprit continue de paraître jusqu'en août 1941. Et Emmanuel Mounier, sa femme et sa fille Françoise, celle qui était bien malade, résident à Lyon. C'est le dénuement, la pauvreté, presque la misère. Et pendant un an, il donne des cours de philosophie chez les Lazaristes. Les Lazaristes, c'est la congrégation admirable fondée par Saint-Vincent de Paul. Nous en avons un ou deux Lazaristes à Montréal. Alors, chez les Lazaristes de Lyon, hein, c'est là qu'il donne des cours de philosophie. Puis il en donne aussi à l'école Robin de Vienne, à quelques kilomètres au sud de Lyon. C'est Vienne en France, c'est pas Vienne en Autriche. Alors, la guerre répand la nuit, si on peut dire. Hein. S'excite chez lui une réflexion encore plus aiguë sur le destin de la France qu'il aime. Car c'est un patriote aussi. Et aussi sur les éventualités politiques, sur le côté, sur le rôle aussi du catholicisme. Alors, la revue Esprit demeure, malgré la censure du gouvernement de Vichy, le gouvernement de Vichy, je le dis pour les jeunes, c'est à Vichy qu'il y avait des Français qui gouvernaient la France, mais étaient dans l'emprise des nazis et essayaient de faire de leur mieux. Ils ont été souvent condamnés par d'autres Français, mais je crois qu'en général, les gens de Vichy avaient du cœur. Le maréchal Pétain, j'ai peine à croire qu'il ait été un mauvais Français. J'ai beaucoup de difficultés à croire, en tous les cas. Alors, il ne pouvait pas ruser longtemps avec le gouvernement de Vichy. Il ne fallait pas y compter pour l'intérêt même de la revue. Alors, Emmanuel Mounier n'aurait pas admis, d'ailleurs, qu'on ait pu le soupçonner d'opportunisme. Et ce qui devait arriver arriva, là, en 1941, le 25 août, Esprit était frappé d'interdiction par décision de l'amiral de la flotte, vice-président du Conseil, Et dans le texte, on dit « pour les tendances générales qu'il manifeste ». C'est souvent comme ça quand on condamne tant l'Église que dans le monde politique, « pour des tendances générales qu'il manifeste ». Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Et Mounier commente l'affaire sur un ton détendu. Il dit « pas l'ombre d'une tristesse ou d'une amertume. Le scénario se déroule comme je l'avais prévu. Il a seulement duré 6 mois de plus que je n'aurais cru. » Jamais je n'ai senti esprit si présent, si fort, si vivant que ce soir où ils croient, eux, l'avoir tué. C'est dans ses carnets, datés du 25 août 1941. En attendant la résurrection de la revue, Esprit Mounier n'a rien espéré des circonstances. Il n'a rien espéré non plus des hommes qui sont en place, et puisque la revue est supprimée, il se remet à écrire des livres. Et 4 ans après la pensée de Charles Péguy, cet ouvrage qui était un peu sa thèse, n'est-ce pas? Il avait fait paraître « Révolution personnaliste et communautaire », puis en 1936 « De la propriété capitaliste à la propriété humaine » dont je vous ai parlé, et « Manifeste au service du personnalisme », trois ouvrages énormes qui contiennent l'essentiel de toute sa doctrine. Et en 1939, il signait un texte plus directement inspiré par l'événement, « Pacifiste » ou belliciste, c'est le début de la guerre. Il avait promis au Cahier du Rhône, que dirigeait Albert Béguin, un essai sur la tradition ouvrière française, et on croit que le manuscrit était perdu par suite d'une perquisition des Allemands. Emmanuel Mounier est en effet arrêté le 15 janvier 1942. Il passe pour un des chefs du mouvement Combat. Le 21 janvier, on l'emprisonne à Clermont-Ferrand. Il est remis en liberté provisoire 1 mois plus tard, le 21 février, mais il est maintenu en résidence forcée à Clermont-Ferrand. Et le 29 avril, il fait l'objet d'une mesure d'internement administratif qu'il conduit à Valls, le 2 mai. Et pour protester contre sa détention, il fait la grève de la faim, en accord avec plusieurs de ses amis. Et pendant 12 jours, à partir du 18 juin, il ne mange pas. Un nouveau mandat d'amener est lancé contre lui. Au début de juillet, il se retrouve à la prison Saint-Paul de Lyon, où il va rester jusqu'en octobre. Alors, de ses expériences de prison, il nous a laissé un journal qui manque ni d'humour, ni de réalisme. Peut-être un homme qui avait un grand sens de l'humour. Il a pris aussi des notes sur la grève de la faim. Il a eu même, un moment, le projet de les éditer sous le titre « Journal d'un acte fragile ». Et c'est en prison qu'il va rédiger la majeure partie de son traité du caractère, cet immense bouquin, qui est conçu à l'origine comme un petit ouvrage pour une collection de vulgarisation et qui devient beaucoup plus important et qui est paru en 1946. Alors il ajoute à son œuvre plusieurs livres, « Liberté sous condition »,« Introduction aux existentialismes »,« Qu'est-ce que le personnalisme ?»,« L'éveil de l'Afrique noire »,« La petite peur du XXe siècle »,« Le personnalisme », c'est fantastique. Alors avec son obstination qui vient de ses origines paysannes, puis sa passion du travail qui vient, je crois, de sa grande foi chrétienne. Mais ce montagnard d'origine arrive au terme de sa montée. Et dans les premiers jours de septembre 49, il est frappé d'une crise cardiaque qu'il attribue au surmenage. Et l'automne, qui est une saison clémente, qu'il a toujours aimée, ça lui rend un peu de force pour quelques mois. Il se remet à l'œuvre, il corrige des articles, il discute avec ses rédacteurs, il révise inlassablement les appréciations qu'il porte sur la politique, sur les partis, sur les hommes, et sa correspondance de l'époque traduit une activité redoublée. Mais lui, il se dépeint comme un bonhomme déjà vieillissant. Il est dans la quarantaine. Il entrevoit de suivre peu à peu sa principale vocation qu'il a toujours au cœur, qui est une vocation de méditatif. Il écrit ceci à Jean-Marie Domnac, que j'ai aussi interviewé à rencontre, un très grand journaliste catholique. Et puis il ajoute, l'événement sera notre maître intérieur. Il veut se laisser conduire par l'action de Dieu, par les événements qui sont toujours, c'est toujours Dieu qui va au fond des événements, mais le grand événement pour lui, c'est la mort. Et cet événement, ce fut dans la nuit du 22 mars 1950. C'était un arrêt du cœur. À 45 ans, Emmanuel Mounier va rejoindre au-delà son ami Jacques Lefranc, qui l'avait assisté dans son agonie quelques mois auparavant. Il écrit avant de mourir, « Quelle belle et simple chose que la mort. La mort me paraît fraternelle. » C'est tout à fait dans l'esprit de saint François d'Assise. C'est ainsi qu'il parlait après la disparition d'un des hommes avec qui il avait été en profonde union spirituelle. La mort ne l'avait pas trompé. Avant de la rencontrer, il avait eu le temps de publier le premier volume des carnets de route intitulé « Feu la chrétienté ». Il préparait le second, « L'espoir des désespérés », puis le troisième, « Les certitudes difficiles », publié au lendemain de sa mort. C'est paru dans l'esprit, tout ça. Cet homme immense a écrit des choses absolument sublimes. Je crois bon d'en relever quelques-unes. Il dit, on peut se demander, une civilisation ordonnée et heureuse est-elle une civilisation chrétienne? Il est toujours possible, dit-il, de donner à l'ordre et au bonheur des compréhensions telles qu'on y fasse rentrer le ciel et la terre, mais au plan où nous avons situé le mot civilisation, l'ordre est un aménagement rationnel des rapports, le bonheur une satisfaction aisée des besoins. Et à supposer qu'il puisse s'établir dans un équilibre durable et même s'agrémenter de quelques vertus morales, celles qui sont liées à l'équilibre de la santé et des nerfs, il formerait une sorte d'animalité supérieurement conditionnée ou de merveilleuse industrie. En d'autres termes, il ne veut pas se contenter d'un bonheur plus ou moins animal. Pour lui, le bonheur, c'est tout autre chose. Tout autre chose. Il dit, s'il y a retard du monde chrétien dans son ensemble, cela ne peut signifier que ce monde doit se mettre à l'heure de l'autre sans discernement, ni que le succès historique d'une idéologie antagoniste témoigne en faveur de celle-ci. Plus néfaste encore serait le glissement d'une critique de l'Occident à une désaffection envers l'Église visible. Et on dit de Mounier qu'il avait bien senti le danger quand il disait « Oui, Bernanos, il rôde parmi nous une forte odeur d'apostasie. Je la sens parfois, il est vrai, comme un vertige fugitif dans les écrits des plus étourdis de nos jeunes chrétiens. Mais où elle nous suffoque, ce n'est pas auprès de ces enfants sauvages et souvent généreux, c'est dans nos comportements les plus orthodoxes, c'est de telles messes, c'est à telle messe désolante, à tel sermon désespérément vide. Que c'est triste ces messes désolantes, ces sermons désespérément vides dont il parle dans l'agonie du christianisme avec un point d'interrogation qu'il a publié dans Feu la chrétienté. Si les sermons étaient de feu, si nos messes étaient de foi, si notre Église était, comme elle l'est d'ailleurs beaucoup, une grande œuvre de charité, de don d'elle-même, quelle est belle l'Église, mais que souvent, on manque le bateau. Au plan philosophique, nous y a souvent montré que la personne est incarnée. La personne est incorporée aussi à l'Église. Parce qu'on ne la conçoit pas sans ses attaches vitales, la personne à la nature et à la communauté. Au plan religieux, le personnalisme d'un catholique trouve naturellement son centre dans l'incarnation. Il faut faire comme le Fils de Dieu, s'incarner, être des êtres incarnés. Il écrit, toute la théologie catholique, toute la vie quotidienne catholique ne s'entend que par l'incarnation continuée. L'incarnation n'est pas un mythe extérieur à l'histoire. Mystère transcendant d'histoire, il se déroule cependant en pleine histoire. Chacun de nos actes est appelé à en prolonger les effets, puis encore à y collaborer en quelque manière, et il dit cette belle phrase, « Que la condition humaine soit la condition d'un être incarné. Nulle part ce résultat de l'analyse réflexive ne reçoit un support aussi solide de telles possibilités d'extrapolation que dans la religion du Verbe incarné. Et cette religion du Verbe incarné, pour lui, c'est l'Église catholique. Ceci termine cet aperçu bien superficiel sur Emmanuel Mounier. Il faudrait en parler pendant des jours et des semaines. Je crois personnellement que c'était un saint, mais un saint si moderne qu'il est presque pas canonisable. Dommage.